Okay, alors, voilà, ça va. Ok. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Om
Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai.
Je
Alors, on est à la page 15 et on va recommencer le verset qu'on avait commencé la semaine dernière. Alors, à la ligne 9, Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît?
On lit le sanskrit?
Ligne 9, page 15.
Ok. Rishba, le Shrimad Bhagavatam 5.5.1 se lit comme suit. Rishyabha uvacha nayam deodea bhajam niloke kashtam kamam ara ate Vidbujamye tapodirviam putraka yena satvam sudye yashmad brahma shokyam dve ananta. Shri Rishabh
Non,
Badeva.
lis le mot à mot.
Le mot à mot, ok.
Ouais, s'il vous plaît.
Rishabha uvacha Rishabha Deva dit. Na, ne pas. Ayam, ce. Deha, corps. Deha, bhajam, de tous les êtres distincts qui ont revêtu des corps matériels. Nriloke, en ce monde. Kashtam, source de problèmes. Kaman, les plaisirs des sens. Arate, doigt. Vidbujam, des mangeurs d'excréments. Yé, qui, par austérité et pénitence. Divyam, divin. Putraka, mes chers fils. Yena, par quoi? Satvam, le cœur. Sudyet, devient purifié. Yashmat, à partir de quoi? Brahma, Sokyam, bonheur spirituel. Tout, certainement. Anantam, sans fin. Shri Rishabh Badeva dit à ses fils. Mes chers enfants, d'entre tous les êtres ayant revêtu en ce monde des corps matériels, ceux auxquels une forme humaine a été octroyée ne devraient pas peiner jour et nuit en vue du seul plaisir des sens, accessible même aux chiens et aux porcs qui se nourrissent d'excréments. Ils devraient plutôt pratiquer la pénitence et l'austérité pour atteindre le niveau divin du service de dévotion. Grâce à cette pratique, le cœur se purifie et on découvre alors une existence éternelle et toute de félicité, qui transcende le bonheur matériel et dure à jamais. Teneur et portée. Dans ce verset, Sri Rishabhadev parle à ses fils de l'importance de la vie humaine. Les mots Deha Bahak désignent quiconque revêt un corps matériel. Mais l'être qui se voit attribuer une forme humaine ne doit pas agir comme un animal. Les chiens et les porcs, par exemple, se satisfont leurs sens en mangeant des excréments. De même, après une dure journée de labeur, certains êtres humains s'efforcent la nuit venue de trouver le plaisir en mangeant, en buvant, en se livrant au plaisir de la chair, en dormant. Il leur faut de plus se protéger de toute agression éventuelle. Cependant, ce n'est pas ainsi que vit un homme civilisé. Un être humain digne de ce nom doit accepter volontairement certaines souffrances en vue du progrès spirituel. Il est bien entendu que les animaux et les plantes connaissent également la souffrance du fait de leurs actes passés. Toutefois, l'être humain se doit d'accepter certaines souffrances volontaires sous forme d'austérité afin d'accéder à la vie divine, ce qui lui permettra de jouir du bonheur éternel. Chaque être vivant s'efforce de trouver le bonheur, mais tant qu'il est emprisonné dans un corps matériel, il doit subir toutes sortes de maux. Or, l'homme est sensible à des valeurs supérieures. Il doit donc agir en accord avec la connaissance supérieure qui lui est transmise afin d'accéder au bonheur éternel et de retourner à Dieu. Il ressort nettement de ce verset que le gouvernement et le Père protecteur naturel devraient éduquer ceux qui dépendent d'eux et les élever à la conscience de Krishna. Privé de la conscience de Krishna, tout être doit souffrir du fait qu'il est plongé dans le cycle perpétuel de la naissance et de la mort. Pour permettre à chacun de s'affranchir de ce carcan et d'accéder au bonheur et à la félicité, il faut enseigner le Bhakti Yoga. Une civilisation irresponsable néglige d'éduquer l'homme sur la façon d'accéder au niveau du Bhakti Yoga. Pourtant, sans conscience de Krishna, une personne ne vaut pas mieux qu'un chien ou un porc. Les instructions de Rishabhadev revêtent un caractère essentiel à notre époque, où l'on éduque et forme les gens à travailler comme des bêtes de somme pour satisfaire leurs sens, sans pour autant leur donner un but sublime à l'existence. Les hommes doivent faire des distances considérables pour aller gagner leur pain. Ils quittent leur foyer tôt le matin pour ne pas manquer le train dans lequel ils doivent voyager debout dans un compartiment bondé pendant une heure ou deux. Puis ils prennent le car pour aller jusqu'à leur lieu de travail. Au bureau, ils doivent travailler pendant 8 heures, puis à nouveau compter 2 ou 3 heures de déplacement pour retourner chez eux. Après avoir mangé, ils ont des rapports sexuels et finissent par dormir. En échange de tout le mal qu'ils se sont donné, ils n'obtiennent pour tout bonheur qu'un peu de plaisir charnel. Yan Meitunandi Griyamedi Shukam Hi Tucham. Rishabhadev indique clairement que la vie humaine n'est pas destinée à ce genre d'existence, accessible même aux chiens et aux porcs. En fait, les chiens et les porcs n'ont même pas à travailler à ce point pour pouvoir s'accoupler. L'être humain devrait adopter un mode de vie différent et ne pas chercher à imiter ces animaux. L'alternative, elle est également mentionnée. L'homme doit se livrer au tapasya, à l'austérité et à la pénitence, grâce à quoi il pourra s'arracher au piège de la matière. Une fois établi dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotion, son bonheur est garanti pour l'éternité. L'être distinct poursuit le bonheur vie après vie, mais il peut résoudre tous ses problèmes par la simple pratique du Bhakti Yoga. Il obtient alors aussitôt de pouvoir retourner à Dieu dans sa demeure originelle, ainsi que le confirme la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 9. Janma karma cha me divyam eva myoveti tadvata tyak va deham purnar janma naiti mam etitso
Arjuna.
Celui au Arjuna qui connaît l'absolu de mon avènement et de mes actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il entrera dans mon royaume éternel. Le but de tout tapasya est Krishna lui-même. À cette fin, le tapasya est un impératif incontournable.
Jai, merci beaucoup.
Hare Krishna.
Hare Haribol. Om Gyanati Mirandasya Gananjana Sadakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Allez, commentaire.
Oui, allez.
Quand on dit souvent, on parle d'austérité, puis ici il parle de pénitence auquel il faut se livrer.
Ouais.
Mais en fait, là, quand on lit ces termes-là, c'est comme quelque chose qui est déplaisant, mettons, d'une certaine façon. Mais c'est pas plutôt, dans le fond, une libération, parce que on se retire des choses qui nous enchaînent à l'énergie matérielle. Et dans le fond, c'est plutôt une délivrance qu'on se donne en arrêtant de faire des choses qui nous éloignent de Krishna.
Oui, c'est... Donnons une définition du mot tapasya. Tapa veut dire austérité. C'est deux mots, tapa et asya. Alors, tapa, austérité, pénitence, c'est la même chose. Et asya veut dire de la personne. C'est la personne qui accomplit volontairement une pénitence ou une austérité. Alors, le but du tapasya, ultimement, c'est Krishna. C'est Krishna lui-même. Alors, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il dit, c'est le chapitre 9, verset 27, si je ne m'abuse. Krishna, il dit, il dit justement que toutes les austérités, charités qu'on ferait, doivent être accomplies comme une offrande à lui. C'est dans Bhagavad Gita. C'est 9.27. Ok, on va aller là. Si je ne m'abuse. C'est ça. Alors, Krishna dit, 9.27. Quoi que tu fasses, que tu manges, sacrifies ou prodigues, quelque austérité que tu pratiques, que ce soit pour m'en faire l'offrande au fils de Kunti. Alors, on peut lire la teneur apportée. Il est du devoir de chacun d'organiser sa vie de façon à ne jamais oublier Krishna, quelles que soient les circonstances. Tout homme doit travailler s'il veut maintenir l'âme dans le corps. Krishna recommande ici que l'on travaille pour lui. Tout homme doit manger pour vivre. Qu'il n'accepte alors pour nourriture que les reliefs de la nourriture offerte à Krishna. Tout homme civilisé a aussi le devoir d'accomplir des rites religieux. Qu'il les destine à Krishna, Archana, comme lui-même le recommande ici. Tout comme il est également enclin à faire la charité. Aussi Krishna dit-il ici que ses dons lui soient faits en utilisant tout excédent de ses biens à la propagation du mouvement pour la conscience de Krishna. Et puisque les gens sont attirés par la méditation, pourtant impraticable de nos jours, qu'ils adoptent la méditation sur Krishna 24 heures par jour en récitant sur un chapelet le mantra Hare Krishna. Car de celui qui pratique cette forme de méditation, le Seigneur affirme dans le sixième chapitre qu'il est le plus grand des yogis. Voilà. Là, je vais juste aller voir quelque chose. Pause recording. OK, c'est bon. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je n'avais un aussi, là.
Oui.
On parle toujours homme et toujours comme on est toujours comme séparé de Krishna. Dans toutes les versets, tout ça là, on voit pas l'unité qu'on est avec Krishna. On parle toujours comme on serait le on. Tu veux dire, dans le fond, il y a pas de on. Il y a rien de tout ça. Tu sais, on est toujours dans le côté corporel qu'on parle pour le corps, les tapas corporels, le plaisir des sens, tout ça, là. C'est comme c'est une conversation dualité. C'est pas la conversation, mais la
description.
La façon que c'est expliqué, là, tout ça, là. Je sais pas si c'est le chemin ça à prendre pour arriver à l'unité totale avec le Seigneur, dire comme serviteur.
Ben, l'unité totale, disons totale en quantité, ça n'arrivera jamais.
Non, pas en quantité. Ça,
alors, c'est ça. En qualité.
En
qualité, en tant qu'âme spirituelle, ça c'est ce à quoi il faut arriver. Mais on l'est déjà. C'est pas compliqué, là. L'âme est immortelle, l'âme est inchangeable, elle est immuable, elle est de même qualité que Krishna. Elle est Sat Chit Ananda Vigraha. Alors, c'est quoi qui fait la différence entre un homme, une femme? Mettons, on parle d'humain, là, d'être humain.
Le corps, c'est seulement le corps qui fait la différence.
Non, c'est une combinaison des
entre
deux.
Entre hommes et femmes.
Oui, oui, ça c'est correct, là. Chacun a un corps différent l'un de l'autre. Mais disons, on parle en tant
Oui.
qu'être humain. Une femme est aussi un être humain, un homme est un être humain, là. Ça, peu importe le sexe, ça rentre pas en ligne de compte, ça. C'est être humain. Alors, qu'est-ce qui fait, disons, l'être humain par rapport à ce que nous avons lu aujourd'hui? C'est que l'être humain n'est pas obligé de s'en tenir dans son existence qu'aux activités animales qui relèvent du corps. Alors, manger, dormir, s'accoupler, se défendre, ça, c'est les activités qui relèvent du corps. Alors, comme c'est dit ici, de quoi un être humain est-il capable? Est-ce qu'il est capable juste de manger, dormir, s'accoupler, se défendre?
Ça, c'est l'animal.
C'est ça.
C'est pas l'humain.
L'humain,
c'est
ça. Un être humain,
peu plus haut.
Un être humain est capable de plus que ça. Alors, si l'être humain ne se contente que de manger, dormir, se reproduire, se défendre, il n'a jamais évolué au-dessus du niveau animal. C'est un animal à deux pattes. Mais c'est pas un être humain vraiment.
Avec
Alors,
la connaissance matérielle. C'est parce que la connaissance matérielle nous garde toujours attachés dans ce monde matériel, mais c'est la connaissance divine qui nous sépare de l'animal. Parce que l'animal, il peut être intelligent, là, il peut faire des choses, il peut parler, tout ça, mais...
Ouais, un animal, il peut parler.
Mais là, si on n'a pas Dieu dans notre vie, on est un animal, je veux dire, intelligent.
Ouais, un animal peut parler, ça je peux vous le garantir, mais pas comme un être humain. Ils ont une façon de communiquer.
Il y a son langage à lui.
Son langage à lui. Dans le livre de Krishna, c'est dit que Krishna parlait avec les animaux ou avec les oiseaux. Alors, ils ont leur langage, ils se comprennent.
Entre eux, ils communiquent, hein, tous. Toutes
Ouais,
les
ouais,
espèces
ouais,
animales communiquent entre elles, même les végétaux, ils communiquent entre eux, hein. Toutes les espèces communiquent, hein. Il y a une forme de conscience.
Ouais.
Mais pour l'être humain, le niveau de conscience, il doit normalement être supérieur. Quand tu as juste un niveau de conscience animale, eh ben tu restes, comme tu disais, au niveau des basiques, juste pour l'entretien, quoi. Tu peux toucher 10 milliards de dollars par mois, vivre dans un château, tu n'es pas mieux qu'un chien ou un porc, comme le dit Srila Prabhupada.
Oui, c'est ça.
C'est un
Alors,
animal riche.
C'est la conscience qui fait la différence.
Oui, ce sur quoi la conscience est fixée. Alors, ici, dans la teneur portée, à la page 16, en haut, premier paragraphe, c'est dit « Chaque être vivant s'efforce de trouver le bonheur, mais tant qu'il est emprisonné dans un corps matériel, il doit subir toutes sortes de maux. » La prochaine phrase, c'est là qu'on distingue les animaux des hommes. Or, l'homme est sensible à des valeurs supérieures. Il doit donc agir en accord avec la connaissance supérieure qui lui est transmise afin d'accéder au bonheur éternel et de retourner à Dieu. Ça, c'est le programme. Alors, en d'autres mots, l'être humain est capable de recevoir une connaissance spirituelle, une connaissance supérieure. Disons que l'autre jour, on a parlé qu'il y avait 5 niveaux de conscience. Il m'en manquait un. Après, ça m'est revenu, là. Alors, le plus haut que les matérialistes peuvent aller, c'est Jnana Maya. Alors, Jnana, la connaissance. Alors, comme dans le Bhagavad Gita, c'est dit, Jnanam Vijnanam Astikyam. Ça, c'est les brahmanas, les caractéristiques des brahmanas. Jnanam, ils ont la connaissance, mais plus que la connaissance, c'est Vijnanam, c'est-à-dire la réalisation de la connaissance. Alors, il y a un côté théorique et un côté, disons, d'assimilation de la connaissance, de la réalisation de la connaissance. Alors, comme Prabhupada dit dans une teneur reportée, la vie spirituelle commence par Aham Brahmasmi. Je ne suis pas ce corps, je suis Brahman, je suis une âme spirituelle. Mais Prabhupada dit, chacun devrait avoir une réalisation pratique de ça. Aham Brahmasmi, je suis une âme spirituelle. Alors, c'est pas évident, là. Pas évident pour les personnes qui ont jamais entendu Aham Brahmasmi. Comment ils vont réaliser Aham Brahmasmi s'ils n'ont jamais entendu parler de leur vraie nature, qui est justement Brahman, c'est-à-dire d'être une âme spirituelle? Alors, c'est pourquoi dans le service de dévotion, l'activité première, c'est Shravanam, c'est-à-dire écouter ce qui a trait à Krishna, écouter la science de Krishna. Et là, après, les réalisations peuvent venir. C'est assez simple comme processus. Alors, Prabhupada, il explique ce que le Seigneur Rishabhadev veut enseigner à ses enfants. Le Seigneur Rishabhadev avait 100 fils. Et ça, c'est le premier verset de son enseignement à ses fils, le verset de ce soir. Alors, l'avantage de s'associer avec une personne qui est vraiment avancée spirituellement. On parle d'un maître spirituel authentique. On parle d'un Vaishnava, c'est-à-dire un pur dévot de Krishna, une âme réalisée. Donc, Vaishnava, il n'y a pas nécessairement l'état d'être une âme réalisée, parce qu'on peut, Vaishnava, ça veut dire quelqu'un qui sert à Krishna, qui croit en Krishna et qui, alors même des dévots néophytes sont appelés Vaishnava. Mais un Vaishnava de premier ordre, ça c'est un pur dévot de Krishna, une âme réalisée, un serviteur de Krishna. Alors, l'avantage de s'associer avec des Vaishnava, c'est que les Vaishnavas ont une compréhension des niveaux de bonheur, disons, qui peuvent être accessibles à l'être humain. Alors, comme ici, dans la teneur portée, le Seigneur Shabbadev dit, mais pourquoi essayer de jouir de vos sens si vous avez la forme humaine de vie? Lequel plaisir est même disponible pour les chiens et les porcs des mangeurs d'excréments? Pourquoi poursuivre cette recherche? Alors, le Seigneur Shabbadev dit, vaut mieux pratiquer l'austérité et la pénitence pour purifier son cœur et atteindre un bonheur qui est permanent et qui n'a pas de fin. Alors, comme c'est dit ici dans le mot à mot, Brahma Sokyam tu anantam. Alors, Brahma Sokyam, le mot Sokyam, ça veut dire le bonheur. Brahma Sokyam veut dire un bonheur spirituel. Ça veut dire c'est un bonheur pour l'âme spirituelle. Tu, le mot tu, ça veut dire que c'est vraiment pour une préposition pour renforcer le point qui est fait. Alors, tu anantam ou tu anantam. Anantam veut dire sans fin, un bonheur sans fin. Alors, le bonheur de manger, dormir, travailler dur, comme Prabhupada donne l'exemple, un bonhomme qui s'en va travailler tous les jours à 2-3 heures de son ouvrage. Alors, évidemment, là, on peut dire, Prabhupada, à quoi il a pensé quand il a dit ça. Alors, Prabhupada a pensé, je suis pas mal sûr de ça, là, même si c'est pas écrit, c'est le cas typique des Indiens en Inde. Parce qu'en Inde, c'est le train, là. C'est les métros, peut-être qu'il y en a, là, je sais pas, là, j'ai jamais vu ça en Inde, moi, personnellement. Mais des trains, c'est vraiment le moyen de transport des masses en Inde. Alors, et comme Prabhupada dit, il reste debout, et même pas assis. Et c'est vrai, quand tu prends le train en Inde, là, bonne chance. C'est une place, donc c'est une place pour t'asseoir. C'est que la majorité des gens, ils sont debout. Alors, ils se tiennent après le poteau. Comme à Montréal, la même chose. Tu te tiens dans le métro après le poteau. Puis tu fais ton chemin. Puis peut-être tu auras une place, ou peut-être tu n'auras pas de place. C'est that's the name of the game. Et alors, comme Prabhupada dit ici, il reste comme ça 1 heure, 2 heures. Puis ensuite, il faut qu'il prenne le car, pour ne pas dire l'autobus. Alors ça, c'est comme ajouter l'insulte à l'injure. Parce qu'en plus du métro, ou du train, faut que tu tapes l'autobus en plus. Puis là, tu arrives à ton boulot. Puis là, ben, tu as 8 heures à te taper. C'est quand même quelque chose, là. 8 heures après tout ça, 3 heures avant, 8 heures après, puis un autre 3 heures pour t'en retourner chez vous. Là, tu arrives chez vous, tu es à moitié crevé. Et dans une autre teneur et portée du Srimad Bhagavatam qu'on n'a pas aujourd'hui. Et là, Prabhupada lui explique le bonhomme qui arrive chez lui. Et là, lui, il veut avoir du sexe, là. Ça, c'est une chose. Mais sa femme va, disons, lui envoyer à la face toutes sortes de demandes ou de besoins domestiques. Alors, ça, c'est comparé à l'âne qui veut avoir des rapports avec l'ânesse, mais l'ânesse le reçoit, lui souhaite la bienvenue en lui envoyant des coups de patte dans la gueule. C'est dans le Srimad Bhagavatam, c'est Prabhupada qui écrit ça. Alors, il compare justement que l'homme moderne, c'est ça qui arrive. Alors, il arrive chez eux, t'es à moitié capote. Puis là, ben, une dernière shot d'énergie à perdre en passant. Et puis, il se fait ruer de coups, dans une façon de parler, là. Alors, c'est la vie matérielle qui est faite comme ça. Et, pardon?
Je dis tout ça, c'est pour combler les désirs matériels. Juste ça. Il y a pas de plus, là. Plus tu
Oui.
désires, plus tu dois être esclave à travailler, à vendre ton temps pour payer tous ces plaisirs-là de désir.
C'est ça. Le temps passe, la durée de vie passe, et puis à un moment donné, tu te rends compte que qu'est-ce que tu as obtenu vraiment en bout de ligne?
Perte de temps.
C'est une perte de temps, perte d'énergie, et puis tu vas souffrir les conséquences parce que c'est le karma. Tu as passé à côté. Tu aurais dû t'engager dans le service de dévotion, mais ça n'a pas tourné comme ça. Alors, grâce à l'association de dévots, l'association des Vaishnavas, on obtient une éducation qui a des valeurs. Alors, comme dans la Bhagavad Gita, Arjuna, il refuse de prime abord de combattre. Et Krishna lui dit, les arguments que tu avances là, c'est anarya jushtam. Anarya, c'est comme le mot arya, les Aryens, mais anarya jushtam, c'est digne des personnes qui sont pas aryennes, qui sont pas arya. C'est-à-dire qu'Arya veut dire quelqu'un qui connaît la valeur de la vie. Ça, c'est dans la traduction de deuxième édition de Bhagavad Gita. Cependant, dans la première édition de Bhagavad Gita, le mot Arya était traduit par ceux qui connaissent les vraies valeurs de la vie ou dans la vie. Alors, ils ont, je sais pas où ils sont, en tout cas.
Les Allemands, ils se croyaient une race aryenne, mais c'est
Oui,
pas la même chose.
ils ont pris ça dans les Védas. Ça vient des Védas, mais ils l'ont tordus à leur fin. Alors, pour moi, il fallait qu'ils se trouvent une raison. En fait, c'est vraiment... Il fallait qu'ils se trouvent une raison valable, politiquement parlant, pour arriver à écraser, entre autres, les Juifs et tous ceux qui appartenaient à des groupes qui faisaient pas leur affaire. Alors, nous, on est supérieurs. Puis là, ils ont inventé une théorie. Cheveux blonds, les yeux bleus, assez bien bâtis. Ça, c'est les Aryens, ça. Mais dans la culture védique, le mot arien, dans la Bhagavad Gita, ça veut simplement dire quelqu'un qui connaît les valeurs de la vie, les valeurs spirituelles de la vie. Alors, si quelqu'un est un arien, et comme c'est, on lit aujourd'hui, on a lu ça ici, c'est ça. Alors, début du deuxième paragraphe à la page 16. Il ressort nettement de ce verset que le gouvernement et le père, protecteur naturel, devraient éduquer ceux qui dépendent d'eux et les élever à la conscience de Krishna. Ça, c'est Aryan. C'est quelqu'un qui connaît les valeurs ou la philosophie de la conscience de Krishna, le Bhakti Yoga, ben, il va vouloir partager avec son entourage, avec sa famille, ces valeurs-là, en espérant que ceux qui vont écouter vont endosser ou adopter aussi ces mêmes valeurs-là. Mais ces valeurs-là sont immuables. Alors, ces valeurs-là, mettons la Bhagavad Gita, elle était vraie il y a 5000 ans, puis elle est encore vraie encore aujourd'hui. Elle s'applique. Pourquoi? Parce que la Bhagavad Gita est pour l'âme. Elle est au niveau spirituel. La relation éternelle de l'âme avec Dieu, la personne suprême. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Alors, la Bhagavad Gita, c'est juste très simple, c'est une vérité éternelle. Ça change pas.
Éternelle et immuable, c'est ce que j'allais dire aussi. Éternelle, immuable, ça n'a pas... Intemporel.
C'est ça. Alors, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, j'ai enseigné la Bhagavad Gita, même comme Krishna dit, j'ai enseigné cette science à Vivasvan, le dévot du soleil, qui lui l'a enseigné à son fils, Manu, et à, lui aussi à son fils Ikshvaku. Et Ikshvaku, c'est dans la lignée de Ikshvaku, il y a le Seigneur Ramchandra qui s'est incarné sur la terre. Là.
Alors, dans le fond,
oui.
Dans le fond, la Bhagavad Gita, c'est comme, je vais essayer de l'expliquer là. Le livre, quand on achète quelque chose à IKEA, on donne le livre comment le monter la chose. Ouais. Alors, c'est matériel. Mais la Bhagavad Gita, c'est comment arriver à monter cette conscience. C'est un livre comme, peut-être c'est pas bon IKEA, là, mais c'est un livre comment changer ta fréquence de voir la vie dans sa vraie nature. Là, on est dans une boîte encore. Là. On est un objet d'IKEA, là. On n'est pas monté, là. Puis là, la Bhagavad Gita va dire comment changer ton état d'être à travers comment tu vois, comment tu manges, comment tu bouges, d'arriver à cette conscience éternelle. C'est un livre qui est fait, je sais pas comment l'expliquer, là.
Ben, pour nous faire, c'est un livre pour la réalisation spirituelle.
Réalisation, oui. C'est ça, c'est un livre comme IKEA, là. Réaliser cette dimension.
Oui, pour nous faire comprendre qu'on est une âme et puis on a une relation avec l'âme suprême et qu'on devrait s'engager au service de l'âme suprême. C'est simple à comprendre. Ça prend un livre, 700 versets pour arriver à la conclusion.
Ça prend un guide, par exemple. C'est pour ça que là, le maître spirituel le rentre dedans. C'est lui le guide comment l'utiliser, ce livre-là.
Exactement. Ça prend un maître spirituel authentique qui appartient à la lignée disciplique, une filiation spirituelle de maître spirituel, dont l'origine est Krishna lui-même. Puis là, ben, tu peux recevoir le message tel quel, tel qu'il est, par la parampara, la succession disciplique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? OK. Alors, on va continuer. Alors, le point 1.14. Benoît, est-ce que tu voudrais lire?
Oui. OK, 1.14. Ainsi, certains chrétiens vont à l'Église confesser leurs péchés et, moyennant quelques pénitences, pensent obtenir l'absolution de leurs fautes. Mais dès la semaine suivante, ils reprennent leurs activités coupables en attendant le pardon du week-end prochain. Une recherche dans Google nous a permis de trouver le passage suivant. Dans l'Église catholique, la confession au sacrement de pénitence et de réconciliation est un acte sacramentel par lequel le fidèle confesse ses péchés à un prêtre pour recevoir le pardon divin. C'est un acte personnel et secret où le prêtre représente le Christ et accorde l'absolution. La confession est considérée comme un sacrement essentiel pour le salut, en particulier pour les péchés mortels, mais elle est recommandée régulièrement pour tous les péchés. Le concept de pureté de conscience est sous-entendu dans le sacrement de confession. Tel est l'objectif. Cependant, le péché voile cette pureté. Il est recommandé d'éviter de pécher, peu importe la foi religieuse. Que faut-il dire d'ailleurs de la conscience de Krishna? Que faut-il penser d'une personne qui commet des péchés à répétition? C'est sûr que son retour à Dieu est sérieusement remis en question. Cependant, si pour une raison ou une autre, elle arrive à se repentir pour vrai et ne recommence plus ses péchés, le Seigneur déclarera en vue de mener une bonne vie et revenir à lui. Le Seigneur l'éclairera en vue de mener une bonne vie et revenir à lui. C'est la même chose dans la conscience de Krishna. À ce propos, nous trouvons un verset intéressant dans le Srimad Bhagavatam 4.26.18. Narada Uvacha Puranjana Sva Mahishim Nirikshyavadu Tam Uvi Tat Sangonmatita Janano Veklaviam Paramam Yayo. Narada Uvacha, le grand sage Narada a parlé. Pour Anjana, le roi pour Anjana, Sva Mahishim, sa propre reine, Nirikshya, après avoir vu, Avalutam, apparaissant comme un mendiant, Bhuvi, sur le sol, Tat, elle, Sangha, par association, Unmaita, encouragé, Jnana, dont la connaissance, Veklaviam, perplexité, Paramam, suprême, Yayo, obtenu. Le grand sage Narada poursuivit. Mon cher roi Parichinabari, dès que le roi Puranjana a vu sa reine étendue sur le sol, apparaissant comme un mendiant, il a immédiatement été déconcerté. Teneur est portée. Dans ce verset, le mot Avadutam est particulièrement significatif, car il désigne un mendiant qui ne prend pas soin de son corps. Comme la reine était couchée sur le sol sans literie ni vêtements appropriés, le roi Puranjana s'est senti très attristé. En d'autres termes, il se repentit d'avoir négligé son intelligence et de s'être engagé dans la forêt pour tuer des animaux. En d'autres termes, lorsque la bonne intelligence d'une personne est séparée ou négligée, elle s'engage pleinement dans des activités pécheresses. En négligeant sa bonne intelligence ou sa conscience de Krishna, on devient confus et on s'engage dans des activités pécheresses. Lorsqu'il s'en rend compte, l'homme devient repentant. Narottama Dasa Thakura décrit un tel repentir. Hari Hari Vipal Kanama Ganayo Manushya Janama Paiya Radha Krishna Na Bajiya Janiya Shunya Visha Kainu. Narottama Dasa Thakura dit ici qu'il se repent d'avoir gâché sa vie humaine et d'avoir bu du poison en toute connaissance de cause. En n'étant pas conscient de Krishna, on boit volontairement le poison de la vie matérielle. Le propos est que l'on devient certainement dépendant des activités pécheresses lorsqu'on est privé de sa bonne épouse chaste ou lorsqu'on a perdu son bon sens et qu'on néglige sa conscience de Krishna. Le verset suivant, Srimad Bhagavatam 4.26.19, se lit comme suit. Sanvayan Shlakshnaya Vacha Ardayena Viduyata Priyasya Sneha Samramba Lingam Atmani Nabiagya. Sanvayan pacifié, shlakshnaya par la douceur, vacha mot, ardayena avec un cœur, viduyata regrettant beaucoup, priyasya de sa bien-aimée, sneha de l'affection, samarambha de la colère, lingam symptôme atmani, dans son cœur, ne l'a pas fait, Abhyaga suscité. Le roi, l'esprit contrarié, commença à parler à sa femme avec des mots très agréables. Bien qu'il soit rempli de regrets et qu'il essaie de l'apaiser, il ne put voir aucun symptôme de colère causé par l'amour dans le cœur de sa femme bien-aimée. Teneur est portée. Le roi regrettait beaucoup d'avoir quitté sa reine et de s'être rendu dans la forêt pour y exercer des activités pécheresses. Lorsqu'une personne regrette ses activités pécheresses, l'abandon de la conscience de Krishna et de la bonne intelligence, la voie de la délivrance des griffes matérielles s'ouvre à elle. Comme indiqué dans le schéma de Bhagavatam 5.5.5, Parabhava Tava Habodha Jato Yuvan na jujnasata atma tadvam. Lorsqu'une personne perd sa conscience de Krishna et se désintéresse de la réalisation spirituelle, elle doit s'engager dans des activités pécheresses. Toutes les activités d'une vie dépourvue de conscience de Krishna mènent simplement à la défaite et au mauvais usage de la vie. Naturellement, celui qui parvient à la conscience de Krishna regrette ses activités pécheresses antérieures sous la forme humaine. Ce n'est que par ce processus que l'on peut se libérer des griffes de la nescience ou de l'ignorance de la vie matérialiste. Tout est dans la qualité de la conscience, une autre façon de dire que tout est dans la pureté de la conscience de Krishna.
Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?
Un petit commentaire vite vite sur la religion catholique, là, puis comment on appelle ça, la confession là, c'était pour contrôler le monde, ça se faisait la confession, c'était pour savoir tout qu'est-ce qui se passait, les prêtres c'était pour avoir un contrôle total sur leur fidèles là, je sais pas comment.
Ouais, fidèle.
Ouais, mais c'était pas le but de la pratique cependant.
Mais c'est comme ça a commencé. Il faisait ça pour écouter qu'est-ce qui se passait dans
Ouais.
toutes les affaires. Puis après, il veut dire, le peuple, lui, les autres, ils pensaient vraiment qu'ils se confessaient à Dieu, là, puis tout ça.
Malheureusement,
Après,
c'est...
la semaine après, ils recommençaient.
Ouais.
Parce que
Mais
là,
malheureusement, c'était pas
ils ont
des
lavé les
prêtres.
mains.
C'était pas des prêtres qui marchaient dans les pas de Jésus, non plus.
Non, il marchait dans...
Ouais, mais les prêtres en question, s'ils sont comme ça, ils deviennent, leur conscience devient, comment dire, affectée par toutes sortes d'histoires pécheresses qu'ils entendent. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un cœur pur si à la journée longue, ils entendent et entendent toutes sortes d'activités pécheresses de la part des fidèles, un instant, là? Ça rentre pas dans des oreilles de sourds, ça, tu sais, je veux bien croire, là, mais en tout cas, ça fait partie du métier de prêtre.
C'est ça. Puis
Et...
pour ta pénitence, tu vas mettre 2 $ dans la boîte. Dépendant du péché, là, que tu mettais de l'argent dans la caisse, là, ou 10 « Je vous salue Marie » ou quelque chose comme ça. Et là, t'es nettoyé, là.
Ouais, mais comme Prabhupada explique, ce système-là fonctionne. C'est pas qu'il fonctionne pas, mais à une condition. Et ça, c'est déjà dit. En tout cas, soit on l'a lu maintenant ou on va le lire, whatever. Le Prabhupada explique, c'est à la condition de ne plus recommencer. Alors, la personne peut se confesser, c'est correct. C'est le monde matériel. Qui n'est pas coupable dans le monde matériel? Mais s'il a cette détermination et son cœur s'est suffisamment purifié pour abandonner les activités pécheresses, ben, il est sur la bonne voie, là. Alors, dans la Bhagavad Gita, il y a un verset qui est chapitre 7, verset 27. Il y a un verset justement qui parle des activités pécheresses. Alors, ô descendant de Bharata, 7, 27. Ô descendant de Bharata, ô toi qui triomphes de l'ennemi. OK, un instant, c'est pas 27, c'est 28. Mais anyway, on va lire 27. Tous les êtres viennent au monde dans l'illusion, égarés par les dualités nées du désir et de l'aversion. Bon, ensuite, 28. Ceux qui ont agi avec piété dans leur vie passée comme dans la présente et en ont banni le péché sont délivrés des dualités illusoires. Ils me servent avec détermination. Alors, ça, c'est très important. C'est un verset bien important. Alors, Yesham Tvam Tagatam Papam Jananam Punya Karmanam Te Dvandva Moha Nirmukta Bhajante Mam Dridavritaha. Alors, Yesham Tvantagatam Papam. Papam, ça veut dire les péchés. Et Antagatam, c'est-à-dire qu'ils ont mis fin complètement, le mot à mot dit ici, complètement arraché le péché. Alors, ils ne font plus de péché. Alors, c'est pourquoi, dans la conscience de Krishna, c'est comme, faut suivre les quatre principes régulateurs qui permettent justement de ne plus commettre de péché. Alors, il y a deux niveaux d'activité pécheresse. Il y a un niveau grossier et un niveau subtil qui se passe au niveau du mental, intelligence, physique, whatever. Alors, Prabhupada, dans une teneur portée du Srimad Bhagavatam, il dit, faut être au moins libéré ou affranchi au niveau grossier. Minimum. Alors, quelqu'un doit suivre ces principes-là. S'il a de la difficulté à les suivre, ben, il doit continuer d'essayer de les suivre. C'est aussi simple que ça, là, parce que c'est pas le voisin d'à côté qui va arrêter pour toi. C'est toi-même qu'il faut qu'il arrête, là. À un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Puis, tu pries Krishna d'avoir la détermination et d'avoir la grâce de pouvoir passer à travers, là, les dites tentations et puis progresser dans la conscience de Krishna. Et ça, c'est le prix à payer. Alors, si quelqu'un est d'accord, suit les quatre principes, il n'y a pas de raison que il puisse pas progresser dans la conscience de Krishna. Alors, plus en plus de suivre les quatre principes, il y a une autre recommandation qui est de chanter Hare Krishna, chanter le Maha Mantra. En fait, c'est le Maha Mantra qui purifie le cœur. Vraiment, vraiment. Et ça, ben, c'est la grâce de Krishna. C'est le Seigneur Krishna qui veut ça. Et le même Seigneur Krishna, sous la forme du Seigneur Chaitanya, dit, Kirtaniya Sada Hari. Il veut dire, quelqu'un doit chanter continuellement les saints noms de Krishna. Alors, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Les pauvres catholiques sont fait avoir très dur avec tout ce qu'ils ont mis comme lecture dans la foi catholique. Tu sais, c'est vraiment, ils ont été abusés. Mais peut-être ils voulaient avoir ce genre de vie, eux autres aussi, les catholiques. C'est pour ça qu'ils étaient attirés par ça.
Ben,
Comme tous tes péchés sont.
ouais. Ouais, mais ceux qui devenaient chrétiens, beaucoup s'en sortaient.
Ouais, mais c'était gros, ça, les catholiques. Il y a une grosse masse. C'est 1 milliard d'individus. Je me rappelle qu'on était jeunes, on faisait des blagues sur ça. Bon, le prêtre m'a dit deux, je vous salue Marie. Il dit, mais on a un spécial cette semaine, tu fais trois, c'est trois pour un. Quelque chose, je sais pas, je me rappelle plus exact, là. Mais tu sais, ils prenaient pas ça au sérieux. C'était.
Ouais.
Non, mais ceux qui s'accrochaient à Jésus, là, il y a beaucoup de saints et saintes au Québec, où on parle de Padre Pio, ces gens-là, ils étaient accrochés à Jésus. Et eux, aujourd'hui, on les appelle les saints, là, tu sais, ont été reconnus par l'Église.
Ouais, mais ça, reconnu par l'Église, ça vaut ce que ça vaut. Dans un sens, tu sais. Je veux bien croire, là, mais en tout cas, je veux pas critiquer. Ce genre de trucs,
Non.
ils font leurs affaires, ils ont leur entendement, et puis, c'est une religion de masse. Une religion de masse. Alors, la masse n'est pas parfaite. Et puis, c'est comme Prabhupada, j'ai écouté ça dans une classe. Prabhupada, il dit, ah, il y a des gens qui veulent une religion, mais qui sont, ça je le dis dans mes mots, là, mais c'est juste pour, disons, Prabhupada qui dit, bon, il y a des gens qui veulent une religion, OK. Krishna dit, OK, voici les Védas. Dans les Védas, il va y avoir certaines restrictions à suivre, certaines recommandations. Et puis les gens ont à suivre ça, et puis graduellement, c'est très graduel. Disons, mais quand tu arrives dans la religion catholique, comme moi j'ai été élevé là-dedans,
Non.
là, à un moment donné, moi en tout cas, c'était ma réflexion bien personnelle. J'ai grandi avec, on avait un oncle, une tante qui habitait en biais de la maison où ce qu'on habitait. Alors nous, on était au numéro 37 de la rue où on était, puis l'oncle et la tante, ça c'était deux frères et deux sœurs. Alors, les deux frères sont jumeaux. Alors, le jumeau habite au 42 et nous, on habite au 37. Et les deux sœurs, une au 37, l'autre au 42. Deux sœurs mariées à deux jumeaux.
Wow.
Alors, on a grandi comme ça. Souvent, il y avait des dimanches, on va chez un ou l'autre vient chez nous. Puis en tant qu'enfant, on se fait garder pour X raisons, par la tante, puis on a juste à traverser la rue, on est rendu. Mais là, à un moment donné, je regarde, j'entends ces conversations-là, du dimanche, puis un critique, tel bonhomme qui va à l'église, qui connaît, puis qui dit des affaires comme, ah, lui, c'est un ivrogne, puis à chaque fois qu'il revient de la taverne, il marche tout croche dans la rue. Ils font toujours un commentaire sur ce bonhomme-là, puis ce bonhomme-là, c'est plus d'une fois que ça arrive, ça. Alors, en train de critiquer les autres, puis moi, dans ma tête, je me dis, mais je regarde aller, là, puis je me dis, ben, ils sont pas mieux que les autres, là. À ce moment-là, ça, c'était comme un début, là, tu sais, la religion catholique. Il faut en prendre puis en laisser jusqu'à un certain point. Et puis plus tard dans ma vie, moi je disais à maman que je voulais être un prêtre. Alors ma mère, ça faisait bien son affaire parce qu'elle voulait avoir un garçon extrême qui voulait être un prêtre. Elle, ça c'était son rêve de sa vie. Alors je parle de ça à ma mère. Ma mère s'est arrangée pour que j'aille au séminaire. Puis le séminaire, ben, en bout de ligne, c'est de faire des prêtres. Alors, je vais au séminaire et une des choses qui me frappe chez les étudiants, c'est qu'il n'y en a pas un qui parle d'être un prêtre. Pas un. J'ai jamais entendu un garçon qui dit, moi, je vais être un prêtre dans la vie. Tout le monde parlait d'autres choses, mais pas devenir un prêtre. À cette époque-là, c'était le cours classique au Québec. Et comment je vais devenir un prêtre? Il n'y a pas un chat ici qui est intéressé à devenir un prêtre, là, tu veux dire? Puis, au contraire, c'est que à un moment donné, je me dis, ah, je vais arrêter de croire en Dieu. Je vais arrêter ça. J'ai essayé pendant 2, 3 mois ou quelque chose, puis là, je me suis rendu compte, hey, c'est pénible, cette affaire-là. C'est comme pas vivable, là. C'est vraiment plate. Alors là, je me suis dit, je vais me remettre à croire en Dieu. Mais ça, c'est le genre de pensée que tu gardes ça pour toi-même, là. Tu dis pas ça aux autres, là. Mais depuis ce temps-là, j'allais pas revenir en arrière et mettre en doute l'existence de Dieu ou
Non.
de Jésus ou quoi que ce soit, là.
Non.
Mais c'est ça. Mon background, j'ai grandi dans la religion catholique. Et puis, ma mère, elle voulait absolument qu'on aille à la messe tous les dimanches, se confesser. Et puis, comment dire? Et à un moment donné, je suis devenu enfant de cœur.
Ah, moi aussi.
Je
Moi aussi.
servais la messe.
Moi
Et
aussi.
puis là, et bon, d'une façon ou d'une autre, la responsabilité des enfants de cœur m'est revenue. Alors, c'est moi qui étais en charge de trouver les enfants de cœur, d'appeler les enfants de cœur pour aller à la messe, une telle messe à telle heure, telle heure. Puis j'acceptais ça pendant 2 étés. Et puis, pour me rendre compte que finalement, il y en avait vraiment peu de garçons qui voulaient aller servir la messe. Alors, c'était moi plus souvent qu'autrement qui servais les messes. Alors, j'avais 3, 4 messes d'affilée à servir le matin. Je servais toutes les messes pendant la semaine, le dimanche. Puis, ah ouais, donc. Et puis, mais pour une raison ou pour une autre, même si tu comprends pas grand-chose, tu as une certaine satisfaction de l'avoir fait. Tu sais pas comment, tu peux pas l'expliquer, mais il faut croire que Krishna est dans le cœur puis donne, essaie de t'encourager.
Parce qu'individuellement, dans notre façon de faire, ce qu'on faisait, parce qu'on a un peu les mêmes parcours, on servait Dieu. Donc, on était sincères dans notre service, nous. Même si on n'avait pas les bons outils, mais dans notre façon de fonctionner, moi, je sais que j'étais à fond, j'ai même fait le catéchisme et tout, mais en grandissant, je me suis dit non, il manque des choses, c'est pas cohérent, un peu comme André disait, c'est pourquoi il critique alors que Jésus c'est le modèle, et le modèle, il respecte pas le modèle en fait. C'était je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas bon, il faut que je regarde ailleurs. Et je me suis rendu compte après avec du recul qu'en fait toutes ces religions, ce sont des religions de masse pour cadrer, parce que ça nous a quand même à nous donné des bases. Dans notre éducation petite. Moi, je sais que toute petite, j'allais à la messe avec ma maman, j'avais des bases, même si c'était au niveau ce qu'on sait que c'est. Aujourd'hui, on a trouvé le summum bonum grâce à Krishna, mais aussi grâce aussi à toutes ces austérités, toutes ces cette sincérité qu'on avait, je pense, dans nos, dans notre façon de faire et de rendre notre service.
Krishna nous a choyés en nous
Voilà.
donnant la possibilité de connaître la conscience de Krishna, sinon on serait passé à côté complètement, là.
On a tous des parce qu'on a moi sincèrement aujourd'hui je vois des gens qui sont dans aucune religion entre guillemets, comment ils éduquent leurs enfants, comment ça fonctionne, mais c'est des petits monstres. Parce que c'est à 2-3 ans, c'est déjà des petits monstres, ils ont aucun respect pour rien du tout. Ils sont donc au moins si c'est pas parfait, mais moi pour moi ça m'a donné des bases. Voilà.
Ouais, au moins ça donne une certaine forme de moralité.
Voilà.
T'sais? Et ça, c'est comme c'est dit dans la Bhagavad Gita à la fin, dernier verset de la Bhagavad Gita, si je ne m'abuse, où c'est dit partout, ça c'est Sanjaya qui dit, partout il y a Krishna et Arjuna, il y aura la richesse, l'opulence, puis aussi la moralité. Et Prabhupada explique la moralité. Dans la teneur portée, Prabhupada dit la plus haute forme de moralité, c'est de s'abandonner à Krishna. C'est la plus haute forme de moralité.
Mais si on a passé à travers de tout ça, c'est un peu qu'est-ce qu'ils disent, je sais pas où exactement, que quand on quitte notre corps, même si on n'est pas libéré, on reprend dans l'autre vie, puis on va être sur le chemin pour continuer où ce qu'on a laissé.
Ouais.
Dans le fond, toutes ces choses-là qui arrivent, c'était déjà prescrit, je sais pas comment, là, dans notre karma, là, notre.
Ouais.
Moi,
Définitif, comme,
je dis que une dévotion sincère à Dieu, ça porte ses fruits dans le karma à venir. Quoi que tu sois, parce qu'il y a des gens sincères en islam, il y a des gens sincères chez les juifs, il y a des gens sincères chez les catholiques, chez les chrétiens, il y a toujours une petite poignée de gens sincères, même s'ils n'ont pas, mais c'est la sincérité du cœur aussi, et t'as, Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres. Donc
Ouais.
c'est lui qui sait.
Ouais, moi, des fois, dans des activités de prédication, que je pourrais dire en France, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup d'arabes. Et pour ceux que, il y en a que j'ai côtoyé là-bas, et je trouvais que même si pour eux autres, Dieu n'a pas de forme vraiment comme nous, on peut avoir la conception d'une forme de Dieu dans la conscience de Krishna, mais ce qu'ils disent de Dieu, ça fait tout à fait du sens. C'est
C'est
comme
très
si,
proche.
c'est comme s'ils sont conscients de Krishna, il y a juste la forme qui manque, mais ils sont conscients de Krishna. Sans l'appeler Krishna, là, pour eux autres, c'est Allah, là.
Mais
Mais c'est beau qu'est-ce qu'ils ont à
99
dire.
noms.
Ouais, il y a des
Pardon?
parallèles comme les ablutions. Moi, j'ai déjà fait des parallèles parce que j'ai hébergé une musulmane africaine chez moi pendant quelques mois pour éviter qu'elle ne finisse dans la rue il y a quelques années. Et j'ai côtoyé cette culture en me disant, mais en fait, quand tu regardes, il y a des formes de respect de certaines choses qu'on retrouve aussi dans la pratique de la conscience de Krishna, ne serait-ce que les ablutions. Les musulmans se font des ablutions le matin, les catholiques et les chrétiens, ils se lèvent et ils prennent le petit déjeuner au lit, quoi. C'est l'ablution telle qu'elle est, comme on doit la pratiquer,
Ouais.
elle n'est pas imposée. Comme c'est imposé, par exemple, avec l'islam ou peut-être les juifs, j'en sais rien parce que j'ai pas de temps à perdre à trop me documenter là-dessus. J'ai d'autres livres beaucoup plus intéressants à lire. Mais j'avais moi aussi remarqué que les musulmans, mais par contre, après, il y a d'autres choses. Il y a des dérives et les dérives, on voit à quoi ça peut mener aussi, quoi, hein, aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr.
Parce que quand on les écoute aussi, les lois de la charia, c'est faire en sorte que la terre entière soit musulmane. Hein. Donc nous, où on aura notre place là-dedans, en fait,
Ouais,
si on
c'est
est
ça.
dans la...
Ouais,
C'est les
disons.
religions de masse. Les religions de masse, faites pour la masse, en fait, comme on disait tout à l'heure.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ça va?
J'aime beaucoup ces cours, en tout cas. J'aime beaucoup ces cours. C'est très bénéfique et ça permet vraiment de faire un travail au plus près, en fait.
Ouais.
C'est vraiment la connaissance appliquée pour moi.
C'est bon. C'est bon.
C'est
Excellent.
le but. Ouais.
Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on recommence à la page suivante, module 2.
Ah oui, on passe sur un grand module, là, on change le
Le
véritable
véritable
rachat.
rachat de nos fautes. C'est intéressant, ça. Alors, l'idée, c'est à quoi ça, comment est-ce qu'on peut se racheter de ses fautes si on ne maîtrise pas ses sens? Parce que les sens vont nous entraîner dans la gratification des sens, comme on a lu aujourd'hui, à la page 18. Lorsqu'une personne perd sa conscience de Krishna et se désintéresse de la réalisation spirituelle, elle doit s'engager dans des activités pécheresses. Toutes les activités d'une vie dépourvue de conscience de Krishna mènent simplement à la défaite et au mauvais usage de la vie. Naturellement, celui qui parvient à la conscience de Krishna regrette ses activités pécheresses antérieures sous la forme humaine. Ce n'est que par ce processus que l'on peut se libérer des griffes de la naissance ou de l'ignorance de la vie matérialiste. Alors, tout est là. Prabhupada est un génie qui a écrit les réalisations qu'on doit nous-mêmes avoir. Et c'est la grâce de Krishna, c'est merveilleux. Si Prabhupada n'avait pas écrit ses livres, on serait même pas là, nous autres, là. C'est la grâce de Prabhupada.
Un
Alors,
trésor.
ouais. Ça n'a pas de prix. On pourrait, comme matchless gift, le cadeau sans pareil. Il n'y a pas d'équivalent pour ce que Prabhupada nous a donné.
Non.
C'est extra. C'est extra, comme disent les Français. Oui,
Et comme vous dites chez vous, on est chanceux.
on est chanceux, oui, effectivement, on est chanceux. Très chanceux. Voilà. Et merci beaucoup.
Merci à vous.
Ou à
Allez,
vous.
allez,
Hare Krishna.
Krishna.
Merci,
Allez,
Hare
Krishna.
Krishna.
Bonne
À
semaine.
bientôt.
À
À bientôt.
bientôt.
Allez, bon.
Allez
Allez,
bon,
bon.
allez bon. Hare Krishna.
Allez, bon. Allez, Krishna.
Jai. Allez bon.
Allez.
Bon. Ah, voilà.